Quelques heures plus tard, Lupin s'éveilla, brisé de fatigue, la bouche amère. Il resta plusieurs minutes à rassembler ses idées, et soudain, se rappelant, eut un mouvement de défense instinctif, comme si on l'attaquait. Oh, imbécile que je suis! C'est un cauchemar, une hallucination. Il suffit de réfléchir. Si c'était lui, si vraiment c'était un homme en chair et en os, qui cette nuit a levé les bras sur moi, il m'aurait égorgé comme un poulet. Celui-là, n'hésite pas, soyons logiques. Pourquoi m'aurait-il épargné? Pour mes beaux yeux? Ah non, ah non, j'ai rêvé, voilà tout. Il se mit à siffloter et s'habilla tout en affectant le plus grand calme. Mais son esprit ne cessait pas de travailler et ses yeux cherchaient. Sur le parquet, sur le rebord de la croisée, aucune trace. Comme sa chambre se trouvait au rez-de-chaussée et qu'il dormait la fenêtre ouverte, il était évident que l'agresseur serait venu par là. Or, il ne découvrit rien. Et rien non plus au pied du mur extérieur, sur le sable de l'allée qui bordait le chalet. Pourtant... Il appela Octave. « Où as-tu préparé le café que tu m'as donné hier soir ?»«
Au château, patron, comme tout le reste. Il n'y a pas de fourneau ici. »
« Tu as bu de ce café ?»«
Non. »«
Tu as jeté ce qu'il y avait dans la cafetière ?»«
Ah, dame, oui, patron. Vous le trouviez si mauvais. Vous n'avez pu en boire que quelques gorgées. »«
Ah, c'est bien. Apprête l'auto. Nous partons. »
Lupin n'était pas homme à rester dans le doute. Il voulait une explication décisive avec Dolorès. Mais pour cela, il avait besoin auparavant d'éclaircir certains points qui lui semblaient obscurs, et de voir Doudeville, qui lui avait envoyé de Veldenz des renseignements assez bizarres. D'une traite, il se fit conduire au Grand-Duché, qu'il atteignit vers 2 heures. Il eut une entrevue avec le comte Valdemar, auquel il demanda, sous un prétexte quelconque, de retarder le voyage à Brungen des délégués de la Régence. Puis il alla retrouver Jean Doudeville dans une taverne de Veldenz. Doudeville le conduisit alors dans une autre taverne, où il lui présenta un petit monsieur assez pauvrement vêtu, R. Stockley, employé aux archives de l'état civil. La conversation fut longue. Ils sortirent ensemble et tous les trois passèrent furtivement par les bureaux de la maison de ville. À 7 heures, Lupin dînait et repartait. À 10 heures, il arrivait au château de Bruggen et s'enquérait de Geneviève, afin de pénétrer avec elle dans la chambre de Madame Kesselbach. On lui répondit que Mademoiselle Ernemont avait été rappelée à Paris par une dépêche de sa grand-mère.
« Soit, mais Madame Kesselbach est-elle visible ?»«
Madame s'est retirée aussitôt après le dîner. Elle doit dormir. »«
Non, j'ai aperçu de la lumière dans son boudoir. Elle me recevra. » À peine d'ailleurs attendit-il la réponse de Madame Kesselbach.
Il s'introduisit dans le boudoir presque à la suite du maître d'hôtel, congédia celui-ci et dit à Dolorès
« J'ai à vous parler, madame. C'est urgent. Excusez-moi. J'avoue que ma démarche peut vous paraître importune, mais vous comprendrez, j'en suis sûr. »
Il était très surexcité et ne semblait guère disposé à remettre l'explication, d'autant plus que, avant d'entrer, il avait cru percevoir du bruit. Cependant, Dolorès était seule, étendue. Et elle lui dit de sa voix lasse
« Peut-être aurions-nous pu demain ?»
Il ne répondit pas, frappé soudain par une odeur qui l'étonnait dans ce boudoir de femme. Une odeur de tabac. Et tout de suite, il eut l'intuition, la certitude, qu'un homme se trouvait là, au moment où lui-même arrivait, et qu'il s'y trouvait encore, dissimulé quelque part.
Pierre-le-Duc ? Non, Pierre-le-Duc ne fumait pas.
Alors ? Dolorès murmura
« Finissons-en, je vous en prie. »
« Oui, oui. Mais auparavant, vous serait-il possible de me dire... »
Il s'interrompit.
« À quoi bon l'interroger ? Si vraiment un homme se cachait, le dénoncerait-elle ?
Alors il se décida, et tâchant de dompter l'espèce de gêne peureuse qui l'opprimait à sentir une présence étrangère, il prononça tout bas, de façon à ce que seul Dolorès entendît. Écoutez, j'ai appris une chose que je ne comprends pas et qui me trouble profondément. Il faut me répondre, n'est-ce pas, Dolorès ? Il dit ce nom avec une grande douceur, et comme s'il essayait de la dominer par l'amitié et la tendresse de sa voix. Quelle est cette chose ? Le registre de l'état civil de Veldenz porte trois noms, qui sont les noms des derniers descendants de la famille Meilreich, établis en Allemagne.
Oui, vous m'avez raconté cela.
Vous vous rappelez, c'est d'abord Raoul de Meilreich, plus connu sous son nom de guerre, Altenheim, le bandit, l'apache du grand monde, aujourd'hui mort, assassiné.
Oui.
C'est ensuite Louis de Meilreich, le monstre, celui-là, l'épouvantable assassin qui, dans quelques jours, sera décapité.
Oui.
Puis enfin, Isilda, la folle.
Oui.
Tout cela est donc, n'est-ce pas, bien établi ?
Oui.
Eh bien, dit Lupin en se penchant davantage sur elle, d'une enquête à laquelle je me suis livré tantôt, il résulte que le second des trois prénoms, Louis, ou plutôt la partie de ligne sur laquelle il est inscrit, a été autrefois l'objet d'un travail de grattage. La ligne est surchargée d'une écriture nouvelle, tracée avec de l'encre beaucoup plus neuve, mais qui cependant n'a pas effacé entièrement ce qui était écrit par en dessous. De sorte qu'avec une bonne loupe, et surtout avec les procédés spéciaux dont je dispose, j'ai pu faire revivre certaines des syllabes effacées. Et, sans erreur, en toute certitude, reconstituer l'ancienne écriture. Ce n'est pas alors Louis de Meilreich que l'on trouve. C'est...
Oh, taisez-vous, taisez-vous !
Subitement brisée par le trop long effort de résistance qu'elle opposait, elle s'est éployée en deux, et la tête entre ses mains, les épaules secouées de convulsions, elle pleurait. Lupin regarda longtemps cette créature de nonchalance et de faiblesse, si pitoyable, si désemparée. Et il eût voulu se taire, suspendre l'interrogatoire torturant qu'il lui infligeait. Mais n'était-ce pas pour la sauver qu'il agissait ainsi ? Et pour la sauver, ne fallait-il pas qu'il sût la vérité, si douloureuse qu'elle fût ? Il reprit. Pourquoi ce faux ?
C'est mon mari. C'est lui qui a fait cela. Avec sa fortune, il pouvait tout. Et avant notre mariage, il a obtenu d'un employé subalterne que l'on changea sur le registre le prénom du second enfant.
Le prénom et le sexe ?
Oui.
Ainsi, je ne me suis pas trompé. L'ancien prénom, le véritable, c'était Dolorès.
Mais pourquoi votre mari ?
Elle murmura, les joues baignées de larmes, toute honteuse.
Vous ne comprenez pas ?
Non.
Mais pensez donc, j'étais la sœur d'Isilda, la folle, la sœur d'Altenheim, le bandit. Mon mari, ou plutôt mon fiancé, n'a pas voulu que je reste cela. Il m'aimait. Moi aussi, je l'aimais. Et j'ai consenti. Il a supprimé sur les registres Dolorès de Meilreich. Il m'a acheté d'autres papiers, une autre personnalité, un autre acte de naissance. Et je me suis marié en Hollande sous un autre nom de jeune fille, Dolorès Amonti.
Lupin réfléchit un instant et prononça pensivement. Oui, Oui, je comprends. Mais alors, Louis de Malreich n'existe pas. Et l'assassin de votre mari, l'assassin de votre sœur et de votre frère ne s'appelle pas ainsi. Son nom... Elle se redressa, et vivement.
Son nom, oui, il s'appelle ainsi. Oui, c'est son nom tout de même, Louis de Malreich. L et M. Souvenez-vous, ne cherchez pas, c'est le terrible secret. Et puis, qu'importe, le coupable est là-bas. Il est le coupable, je vous le dis. Est-ce qu'il s'est défendu quand je l'ai accusé face à face? Est-ce qu'il pouvait se défendre sous ce nom-là ou sous un autre? C'est lui! C'est lui! Il a tué! Il a frappé! Le poignard! Le poignard d'acier! Oh, si l'on pouvait tout dire! Louis de Malreich! Si je pouvais!
Elle se roulait sur la chaise longue, dans une crise nerveuse, et sa main s'était crispée à celle de Lupin. Et il entendit qu'elle bégayait parmi des mots indistincts.
« Protégez-moi, protégez-moi. Vous seul, peut-être. Ne m'abandonnez pas. Je suis si malheureuse. Oh, quelle torture, quelle torture. C'est l'enfer. »
De sa main libre, il lui frôla les cheveux et le front avec une douceur infinie. Et sous la caresse, elle se détendit et s'apaisa peu à peu. Alors il la regarda de nouveau. Et longtemps, longtemps, il se demanda ce qu'il pouvait y avoir derrière ce beau front pur. Quel secret dévastait cette âme mystérieuse? Elle aussi avait peur. Mais de qui? Contre qui suppliait-elle qu'on la protégeât? Encore une fois, il fut obsédé par l'image de l'homme noir, de ce Louis de Malreich, ennemi ténébreux et incompréhensible, dont il devait parer les attaques sans savoir d'où elles venaient, ni même si elles se produisaient. Qu'il fût en prison, surveillé jour et nuit, la belle affaire. Lupin ne savait-il pas par lui-même qu'il est des êtres pour qui la prison n'existe point, et qui se libèrent de leur chaîne à la minute fatidique. Et Louis de Malreich était de cela. Oui, il y avait quelqu'un en prison à la santé, dans la cellule des condamnés à mort. Mais ce pouvait être un complice, ou telle victime de Malreich, tandis que lui, Malreich, rôdait autour du château de Bruggen, se glissait à la faveur de l'ombre, comme un fantôme invisible, pénétrait dans le chalet du parc et la nuit, levait son poignard sur Lupin, endormi et paralysé. Et c'était Louis de Malreich qui terrorisait Dolorès, qui l'affolait de ses menaces, qui la tenait par quelques secrets redoutables et la contraignait au silence et à la soumission. Et Lupin imaginait le plan de l'ennemi. Jeter Dolorès, effarée et tremblante, entre les bras de Pierre le Duc, le supprimer, lui, Lupin, et régner à sa place, là-bas, avec le pouvoir du grand-duc et les millions de Dolorès. Hypothèse probable, hypothèse certaine, qui s'adaptait aux événements et donnait une solution à tous les problèmes.
À tous?
Hein? Oui. Mais alors pourquoi ne m'a-t-il pas tué cette nuit dans le chalet? Il n'avait qu'à vouloir. Il n'a pas voulu. Un geste et j'étais mort. Ce geste, il ne l'a pas fait. Pourquoi?
Dolorès ouvrit les yeux, l'aperçut, et sourit d'un pâle sourire.
Laissez-moi.
Il se leva avec une hésitation.
Irait-il voir si l'ennemi était derrière ce rideau? Ou caché derrière les robes de ce placard?
Elle répéta doucement.
« Allez, je vais dormir. »
Il s'en alla.
Mais dehors,
Il s'arrêta sous des arbres qui faisaient un massif d'ombre devant la façade du château. Il vit de la lumière dans le boudoir de Dolorès. Puis cette lumière passa dans la chambre. Au bout de quelques minutes, ce fut l'obscurité. Il attendit. Si l'ennemi était là, peut-être sortirait-il du château. Une heure s'écoula, deux heures. Aucun bruit. Rien à faire. Ou bien il se terre en quelque coin du château, ou bien il en est sorti par une porte que je ne puis voir d'ici. À moins que tout cela ne soit, de ma part, la plus absurde des hypothèses. Il alluma une cigarette et s'en retourna vers le chalet. Comme il s'en approchait, il aperçut, d'assez loin encore, une ombre qui paraissait s'en éloigner. Il ne bougea point, de peur de donner l'alarme. L'ombre traversa une allée. À la clarté de la lumière, il lui sembla reconnaître la silhouette noire de Malreich. Il s'élança. L'ombre s'enfuit et disparut. Allons, ce sera pour demain. Et cette fois...